Bonjour à tous et à tous. Vous êtes sur le 107.3 de Radio Alpa pour donc Radico Libre, dont les derniers opus sont disponibles sur la page de l'émission qui s'appelle Radico Libre. Et oui, l'émission, mais la page aussi sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler cette semaine du réseau de centrales nucléaires françaises qui produit de tritium. Pourquoi produire du tritium? Eh bien, parce que c'est un gaz qui peut servir à faire des bombes nucléaires. Et oui, le ministère des Armées a annoncé une collaboration avec EDF pour l'utilisation de réacteurs d'une centrale de la Vienne afin de produire du tritium. Et après, on viendra nous dire « Ah oui, mais non, mais attends, le nucléaire civil, le nucléaire militaire, aucun rapport. » Eh ben si, en fait, le nucléaire civil a aussi été développé parce qu'on veut continuer à faire des bombes nucléaires, il faut le savoir. Et donc, EDF, entreprise qui reste publique, va faire un gaz qui va permettre de produire des armes nucléaires qui peuvent détruire la planète, on s'en souvient. Donc cette collusion civile-militaire dans le nucléaire, elle existe depuis toujours, malgré la propagande que l'on veut bien nous faire à propos du sujet. Eh ben, moi, je dis quand même que si on utilisait moins d'énergie, on n'aurait peut-être pas besoin de toutes ces centrales qui produisent non seulement des gaz très dangereux, qui peuvent permettre de faire des bombes nucléaires, mais aussi beaucoup, énormément, une quantité astronomique de déchets nucléaires. Alors peut-être voir notre façon d'utiliser l'énergie. Je me demande si on a besoin d'autant de canettes d'aluminium, par exemple. On aurait pu vous parler de Bruno Le Maire qui confond la gratuité et les cotisations. Alors bien sûr que non, il ne confond pas, mais il fait semblant dans le journal du dimanche de la semaine dernière en annonçant à propos de l'État-providence, je cite, « Nous devons reprendre la maîtrise de ce système devenu incontrôlable. Quel est en fait son but ultime ? La gratuité de tout ?» Pour tous, tout le temps. C'est intenable. Ben, c'est intenable pour qui? Il faudrait déjà se poser la question de quoi il parle quand il parle de la gratuité de tout, pour tous, tout le temps. Mais là, il ne s'interroge pas. Non, parce que l'État-providence dont il nous parle s'appuie en grande partie sur la sécurité sociale. Un ensemble d'organismes comme la CPAM, la CAF et compagnie, des organismes qui ont pour but de réduire les conséquences des risques sociaux. Pour financer ces risques et leur indemnisation, il y a des cotisations qui sont prélevées sur les salaires, sur les pensions de retraite et même sur les indemnités chômage. Donc quand il dit que c'est la gratuité de tout pour tous partout, eh ben il ment, ouais, tout simplement. Parce que en fait, en face, il y a des cotisations. Parce que de fait, ce dont on parle là, la sécurité sociale et une grande partie de l'État-providence, c'est du salaire différé. C'est-à-dire que ben on le reçoit quand on en a besoin. Pas tout de suite pour certains jeunes. On peut se dire, ouais, mais moi je suis jamais malade, pourquoi je cotise pour la maladie? Arrivé vers 50-60 ans, tout de suite on se dit, ouais, non, j'ai bien fait. Peut-être j'ai bien fait. Et c'est pas mal que je sois pas en train de mourir à l'entrée de l'hôpital, comme dans certains pays, quand on n'a pas de pognon. C'est pas mal qu'on m'accepte parce que, justement, je suis un assuré social. Donc, le maire nous parle de gratuité pour affoler son électorat et attiser le ressentiment contre ceux qui sont indemnisés. En fait, c'est du populisme libéral de bas étage. C'est très malhonnête de sa part, avec toujours ce phrasé de celui qui est responsable. Alors lui aussi, en tant qu'acteur, hein, bravo. Mais il devrait quand même annoncer d'où il parle. C'est un libéral en économie, l'égoïsme en bandoulière. Au moins qu'il le dise avant de se faire passer pour le gars qui dit vrai. Tout de suite, on le croirait en fait un tout petit peu moins, l'ami Bruno Le Maire. On aurait pu vous parler également des activités de plein air qui agitent le monde de l'éducation cette semaine, mais aussi les soignants. Pourquoi ? Ben parce qu'il y a des grèves.
J'arrête. C'est la minute des enfants. Aujourd'hui, le G.
Le G comme, on aurait pu faire gratuité, mais on va faire grève. C'est quand à l'école ou dans un milieu de travail, tout le monde dépose, ses outils de travail et refuse de faire les tâches attendues tant que leurs demandes ne sont pas satisfaites. La grève est un moyen pour combattre les injustices en unissant les personnes concernées. Elle permet aussi de développer une meilleure conscience de groupe. Chaque personne devient solidaire des autres. peut-être pour ça que les libéraux aiment pas la grève. Comment ça être solidaires les uns des autres? Mais non, c'est la concurrence de tous contre tous, espèce d'homo economicus. Et en l'occurrence, les personnels du centre hospitalier de Le Mans étaient en grève pour le quatrième jeudi consécutif contre le manque de moyens, notamment pour la psychiatrie avec le PSM. Tiens, on va en reparler. Et ses conséquences sur les urgences. Des grèves également dans la fonction publique qui dure, et notamment dans l'éducation nationale. Dans le 93, ça continue, mais pas seulement. Dans le 44 aussi, il y avait un communiqué de l'intersyndicale éducation de la SCPE et du SNL, c'est les jeunes, les lycéens de Loire-Atlantique, qui appellent à une manifestation le samedi 23 mars à 10h30 à Nantes. Alors, pour ceux qui sont de Nantes, ils sont peut-être allés. Pour les autres, c'est trop tard pour les auditeurs du direct. Alors, si vous êtes en différé, laissez tomber. Donc, quel était l'objet? Eh bien, toutes les organisations appellent les parents, les personnels et tous ceux et celles qui sont pour l'égalité d'accès au savoir scolaire, le voyant comme un impératif démocratique, à manifester justement ce samedi 23 mars. Eh oui, parce que ce que nous font les libéraux qui sont au pouvoir, c'est je détruis l'éducation nationale, et puis si t'es pas content, tu vas dans le public, comme nous on a mis nos enfants d'ailleurs. Ah, c'est pas Madame Oudéa Castéra qui me contredira. On aurait pu vous parler des chronolignes au Mans, mais on vous en reparlera la semaine prochaine. Il y avait également un rassemblement sur l'avenue Bollé. Regardez dans la presse locale, incessamment sous peu, il devrait y avoir des petits articles. Mais on a préféré, on aurait pu vous parler de bien d'autres choses, d'une jolie photo. Est-ce qu'elle est photoshopée ou pas? Ah bah du coup, moi j'aimerais pas me prendre un coup de poing du mauvais acteur, mes vrais banquiers, qui nous sert de péter de la rep. Parce que là, il est carave le gars. Mais finalement, on a préféré compléter la série d'émissions sur la psychiatrie en Sarthe. Pourquoi? Parce qu'on avait envie. Depuis deux émissions déjà, nous brossons un état des lieux de la psychiatrie en Sarthe. De fait, après les constats comme l'existence de structures d'accueil des personnes atteintes de troubles psychiques, à l'instar des GEM, les groupes d'entraide mutuelle, de l'UNAFAM qui reçoit plutôt les familles et les proches. On avait constaté aussi le manque de soignants à l'établissement public de santé mentale, le PSM. Nous avons également présenté les conséquences de cet état des lieux qui peuvent être désastreuses à la fois pour les usagers et pour les personnels, mais aussi les urgences, les personnels de l'EPSM, mais aussi pour les personnels des urgences du centre hospitalier, on vient d'en parler. Cette fois-ci, nous voilà à la recherche de solutions pour réduire les difficultés de la psychiatrie. En premier lieu, il convient de favoriser le retour d'expérience des usagers. Déjà, faut faire ça. Donner la parole aux usagers. Oui, Pascal Bouchery, délégué départemental de l'UNAFAM, donc l'Union familiale des familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques, nous parle de cette place actuellement dans la Sarthe.
Vous trouvez que leur place n'est pas assez importante, la vôtre aussi en tant qu'accompagnant?
Non, je pense que ça va vraiment dans le bon sens, mais faut-il aussi que ce soit compris de tout le monde, c'est-à-dire que la voix des usagers sont, alors j'ai peut-être choqué certaines personnes, mais sont peut-être pas aussi, mais assez importantes par rapport au médical. Je vous ai dit tout à l'heure, nous en tant qu'association, on n'a pas fait 14 ans d'études ou 12 ans d'études dans la médecine. Par contre, on a notre propre expérience, et avec l'enrichissement qu'on peut avoir à accueillir les familles, nous donne un certain nombre de situations qui fait qu'on s'enrichit aussi, nous, à accueillir et accompagner les familles. Donc le tournant est vraiment bien pris, parce que ce soit dans les instances un peu plus institutionnelles, comme le Conseil territorial en santé, qui tourne autour de la démocratie en santé sur un territoire, au niveau de l'EPSM, on a une usager qui est avec nous en commission des usagers. Je vous ai parlé tout à l'heure du projet territorial en santé mentale. Donc il y a un certain nombre de collèges, comme toute institution, le collège médico-social, le collège sanitaire. Et ça a vraiment été l'EPSM, la direction de l'EPSM qui a porté ça. Dans le collège usager, il y a 5 voix délibératives. Alors que dans le médico-social, il n'y en a qu'une. Dans le sanitaire, il n'y en a qu'une. Donc il y a vraiment cette volonté vraiment d'intégrer usagers et représentants d'usagers, comme nous, l'UNAFAM, à venir réfléchir et porter avec nous les actions de demain qui sont peut-être novatrices, et puis peut-être d'autres où il faut encore insister pour les mettre en place. Mais ça, je pense que c'est vraiment un virage qui a été très très bien pris par l'établissement public en santé mentale d'Allonnes, pour intégrer l'usager, la parole des usagers.
Donc un virage positif, donc. Vous avez peut-être remarqué que M. Boucherie prenait des précautions oratoires. Il s'agirait de ne pas désespérer Billancourt. Et en effet, dans le monde des soignants, il y a quand même des gens qui essayent de garder des prérogatives. Et le coup du sachant, celui qui sait et qui ne peut pas avoir tort, on le retrouve malheureusement dans une partie du monde médical. Mais de fait, la parole des usagers est importante et ce virage positif qui a été pris le PSM du Mans, mais pas seulement, il existe depuis plusieurs années et surtout depuis la loi de 2016 sur la démocratie sanitaire. Une loi qui a instauré les conseils territoriaux de santé. Alors attention, vous allez voir, il y a de l'instance. Donc il y a les conseils territoriaux de santé mis en place par l'ARS. L'autorité régionale de santé. En 2017, dans chaque département des Pays de la Loire, pour rester sur la région, on a un conseil territorial de santé. Dans chacun de ces conseils territoriaux de santé a été constituée une commission spécialisée en santé mentale, une C2SM, si on se la pète un peu, sinon on dit CSSM. Et ces instances ont été chargées de réaliser un PTSM, un projet territorial de santé mentale. J'espère que toi, l'auditeur, tu n'es pas trop perdu. En Sarthe, le PTSM a vu le jour en 2018 et à cette occasion, s'est créé alors le collectif Plénitude qui se donne justement pour objectif de renforcer la parole des usagers dans la mise en œuvre des pratiques psychiatriques en Sarthe, des pratiques en santé mentale en Sarthe. Le PTSM, défini pour la période 2018-2022, s'est donné des priorités à appliquer sur le territoire, notamment le cinquième, rédigé comme suit. Priorité 5, le respect et la promotion des droits des personnes présentant des troubles psychiques, le renforcement de leur pouvoir de décider et d'agir, et la promotion de la lutte contre la stigmatisation des troubles psychiques. Une priorité donc plutôt bien mise en œuvre puisque les usagers participent de plus en plus, en plus grand nombre, aux instances qui orientent les pratiques psychiatriques et de santé mentale. D'autres priorités du PTSM sont moins bien menées. Par exemple, la numéro 2, je cite, « Des parcours de santé et de vie de qualité sans rupture, notamment pour les personnes présentant des troubles psychiques graves et s'inscrivant dans la durée en situation ou à risque de handicap psychique en vue de leur rétablissement et de leur insertion sociale. » Ouais, ou la quatrième également, la prévention et la prise en charge des situations de crise et d'urgence. Pour voir que ces deux priorités ne sont pas tout à fait à l'ordre du jour, je vous renvoie à l'émission précédente. À propos de la parole des usagers, Arnaud Ravenel du collectif Plénitude nous relate justement ce qu'il a pu proposer dans la C2SM, la CSSM, la commission spécialisée en santé mentale, qui fait partie du Conseil territorial de santé, donc la commission spécialisée en santé mentale à laquelle il participe.
Nous, on porte l'idée du dialogue ouvert, ou open dialogue, qui permet de soigner de manière plus horizontale, avec une équipe de soins. Alors c'est sûr, ça mobilise plus de nombres sur l'instant T, ça mobilise un médecin s'il y en a, un psychologue, une infirmière psy, une travailleuse d'un travailleur social, la famille et le patient. Et c'est lors de la première crise psychotique, on rencontre le bénéficiaire des soins tous les jours. Et au cours de cette période de crise, on ne donne pas de médicaments, en principe, pour laisser la personne s'exprimer. Et en fait, il est considéré que ces délires et hallucinations sont des allégories qu'il faut comprendre pour résoudre. Alors c'est une pratique qui marche en Finlande, énormément, en Laponie précisément, dans la région de Laponie, et où ils ont pu réduire de 70 à 80% le nombre de psychotiques chroniques, de nombre de personnes ayant des médicaments suite à ça, et 80% des patients qui travaillent malgré des symptômes résiduels. Donc il y a vraiment une question de la place du médecin, un peu tout puissant, qui devrait être rééquilibré avec les autres intervenants, y compris la famille, y compris l'usager, pour, par un dialogue ouvert, ensemble, comprendre ce qui se passe, résoudre la première crise psychotique, éviter que ça se chronicise, je ne sais pas si ça se dit, chronicise, on dit ça comme ça, ce qui empêche qu'il y ait un afflux régulier de patients après à l'hôpital de manière chronique. Aujourd'hui, il n'y a pas cette volonté de garder les symptômes actifs au début de la pathologie. Au contraire, par les médicaments, on veut les faire disparaître. Par les médicaments, on veut casser les symptômes. On veut faire disparaître les symptômes. Voilà. Et après, mais malheureusement, avec l'état de la psychiatrie en Sarthe, il n'est pas évident que le travail des causes, en profondeur, soit bien fait, parce que la prise en charge par les psychologues, tout ça, est compliquée aussi au niveau des CMP. Il y a une surcharge qui est identique. On n'a pas les moyens matériels dans les CMP de faire le suivi adéquat en temps et en heure. On maintient les gens sous médicaments et pour casser leurs symptômes de manière au long cours, quoi. Ça peut être au long cours.
Au long cours, ça peut être même toute une vie. Donc, pour en savoir plus sur cette méthode du dialogue ouvert, il existe une page Wikipédia avec des références pour compléter votre approche. Cette méthode induit une grande réactivité des institutions pour organiser le dialogue, à la fois avec le patient, mais aussi avec son environnement. Une approche de la crise psychotique difficile à mettre en place actuellement au vu des pénuries de personnel dans la psychiatrie.
Il y a aussi dans les CMP des infirmiers qui en fait prennent un peu le relais du médecin, qui ont des entretiens avec les patients et qui en fait font la transmission au médecin par rapport à l'entretien qu'ils ont eu sur l'état du patient. Donc ils sont un petit peu là en tant que relais du psychiatre.
Ce sont les infirmiers de pratique avancée.
Sylvie Faure et Arnold Ravenel du collectif Plénitude nous relataient là l'émergence d'une nouvelle catégorie de soignants, les infirmiers en pratique avancée. Ces derniers existent depuis 2018, que ce soit en santé mentale ou dans les autres services. De quoi parle-t-on ? Eh bien voici un extrait du flyer de présentation de la pratique avancée produit par l'ARS en 2018. La loi de modernisation de notre système de santé pose le cadre juridique de ce que l'on peut appeler la pratique avancée pour les auxiliaires médicaux. Cet exercice en santé existe déjà dans de nombreux pays. En France, le choix a été fait de le déployer au sein d'une équipe en commençant par la profession d'infirmier. La pratique avancée vise un objectif double, améliorer l'accès aux soins ainsi que la qualité des parcours des patients en réduisant la charge de travail des médecins sur des pathologies ciblées. Ce sont donc des infirmiers et infirmières chargés de suivre des patients chroniques dont la pathologie est connue et déjà traitée. En lien avec le médecin, ces IPA, infirmiers et infirmières en pratique avancée, assurent donc les suivis, un moyen de rendre du temps aux médecins. Mais cela n'empêche pas le PSM, de toujours manquer de psychiatres et d'infirmiers. Si les infirmiers en pratique avancée remplacent en partie les médecins, ils vont manquer dans les services pour les soins infirmiers. Ce qui nous a été dit d'ailleurs par des militants de la CGT qui étaient présents lors de la grève du 11 mars devant l'établissement public de santé mentale à Alonne. Leur changement de statut à ces infirmiers qui deviennent des infirmiers en pratique avancée, c'est leur changement de statut devrait donc être compensé par l'embauche de nouveaux infirmiers et infirmières, ce qui n'est pas le cas à l'EPSM. À ce propos, nous avons demandé à Audrey, infirmière à l'EPSM et syndiquée CGT, ce qu'il faudrait faire pour améliorer la situation de la psychiatrie.
Je pense qu'il faudrait commencer par prendre soin des soignants pour qu'ils arrêtent de partir en courant, dépités, dégoûtés de leur métier, qui change carrément de branche hein, pour certains. On a eu il n'y a pas longtemps la visite du contrôleur général des lieux de privation de liberté qui a repéré de graves atteintes aux droits des patients. Et ça a été assez... C'était intéressant mais affligeant à la fois. Ils ont évoqué également la difficulté pour les soignants de travailler comme ça. Ça devient très très compliqué. Éthiquement, c'est compliqué. Donc, ils ont dit qu'une des premières choses à faire, c'était de prendre soin des soignants.
Donc prendre soin des patients, c'est aussi prendre soin des soignants. C'est aussi les aider. Aider ces soignants à rassurer les patients et leurs proches, que ce soit dans le collectif Plénitude ou au GEM Tégira, le groupe d'entraide mutuelle, les personnes que j'ai pu rencontrer m'ont parlé en positif de l'entraide, ce que les institutions appellent la paire aidance. Paire, P-A-I-R. C'est Pascal Bouchery de l'UNAFAM qui en parle, notamment à l'EPSM.
On sait qu'il y a au moins quelques services qui démarrent la paire aidance. La paire aidance, c'est intégrer dans une équipe une personne qui a eu un parcours de personne en souffrance psychique, qui s'est rétablie et qui est en capacité d'accompagner les personnes qui, elles, sont en souffrance psychique. Hein, on a tous toujours plus ou moins le phénomène de la blouse blanche. Et le fait d'avoir, pour une personne en souffrance psychique, avoir la possibilité de discuter de sa sortie d'hospitalisation, des choses comme ça, avec une personne qui a vécu la même chose, on sait que ça peut aussi aider. Et forcément soulager les équipes soignantes.
Prendre soin des soignants, c'est aussi réduire la charge de travail, par exemple en prévenant l'émergence de troubles psychiques. S'il y a moins de personnes qui sont atteintes de troubles psychiques, ben forcément, il y en aura moins être hospitalisées. Écoutons à nouveau Pascal Boucherie de l'UNAFAM qui nous parle de prévention.
On arrive à pousser un petit peu les portes de certains lycées en Sarthe pour aller parler santé mentale aux lycéens. Cette nécessité d'avoir une bonne santé mentale. Et pour avoir une bonne santé mentale, il faut avoir un entourage, il faut avoir... Voilà. On sait que la prévention est quand même quelque chose de très, très important. On fait des marchés, on est présent sur des commissions agricoles, on est, voilà, pour parler de santé mentale aux gens et de se dire, ah oui, c'est vrai que bah, tout compte fait, peut-être moi, je suis peut-être en fragilité. Et si chacun, nous tous, on était un peu, pas des sentinelles, mais presque, vis-à-vis du mal-être que peuvent avoir les gens qu'on côtoie au travail, dans notre famille, les voisins, tout ça, et de ne pas avoir... peur d'eux, hein, ou savoir comment s'y prendre. Il y a des outils formatifs hein, qui permettent d'aborder ces sujets-là pour que chacun prenne conscience de sa propre santé mentale, mais aussi de l'accompagnement qu'il peut faire pour simplement écouter les gens. Voilà, au moins prendre conscience qu'on a tous besoin, et l'OMS le dit, l'Organisation Mondiale de la Santé, dit bien que la santé passe par une bonne santé mentale.
Devenir tous et toutes un peu plus vigilants avec nos proches et ceux que nous côtoyons régulièrement, et puis même avec nous-mêmes, pourrait être une solution à l'engorgement des urgences du centre hospitalier, des CMP et du reste de l'EPSM. Ouais, alors bon, d'accord, il faut qu'on fasse attention à nous, bah, faut peut-être aussi donner des moyens à la santé. Mais là encore, un obstacle apparaît, la priorité numéro 2 du projet territorial de santé mentale de la Sarthe, qui a du mal à devenir une réalité. Prise en charge des situations de crise et d'urgence, pour vous rappeler cette priorité numéro 2, prise en charge des situations de crise et d'urgence. Pour résumer, un meilleur accueil des situations d'urgence, ce qui implique le bon dimensionnement des structures, donc des personnels en nombre suffisant. Une modification des pratiques pour essayer de réduire les passages chroniques des personnes en souffrance psychique dans les structures. La promotion de la pair aidance et de la prévention. Et à propos de prévention, et là c'est moi qui rajoute, peut-être une société moins violente, eh bien forme l'ensemble des solutions accessibles rapidement pour limiter la crise de la psychiatrie. À propos de la violence de la société, souvenons-nous que le principe de la concurrence de tous contre tous, comme le prône l'idéologie égoïste libérale, entraîne de l'isolement. Un élément important du trouble psychique. Et au-delà du soin et de la prévention, l'accompagnement des patients, une fois la stabilisation acquise, est un facteur essentiel du rétablissement vers le bien-être, comme on dit. Pas vers le fait qu'on puisse devenir de nouveau un agent économique, hein. Non, vers le bien-être. Eh bien, c'est ce que nous rappelle Nicolas, animateur du GEM Tégira.
Le GEM est là aussi pour... proposer aussi des alternatives à l'isolement que pourraient avoir des personnes après avoir vécu des situations un peu complexes et des accidents de la vie. Et puis on va aussi intervenir pour éviter un peu les rechutes. L'isolement est un facteur de rechute. Le fait d'avoir un GEM qui est là pour favoriser le lien social et pouvoir s'occuper finalement parfois aussi dans ces journées, eh bien, va éviter les rechutes. Alors j'aime bien dire ça quand je suis avec des personnes de l'EPSM, mais on est le fruit du bon travail de l'EPSM, hein, parce que les personnes qui sont là, eh bien, elles sont stabilisées, elles vivent avec, et donc ça c'est très bien. Il y a eu un soin qui a été fait, et donc et leur vie quotidienne se conjugue avec ce soin. Mais ils peuvent vivre au quotidien dans leur logement et reprendre leurs habitudes d'avant et venir ici pour justement retravailler ce lien social, retravailler la connaissance avec d'autres et retravailler sur de la mise en projet d'activités, de temps de loisirs et de temps quotidien à passer avec d'autres ici. Et puis il y a aussi ce travail de pair aidance aussi, avec la pair aidance que chacun peut avoir aussi. Hein. Il y a des personnes qui, ici, vont pouvoir discuter de leur quotidien, hein, de comment ils vivent avec le soin. Ça, c'est une force aussi des GEM en général. C'est de pouvoir travailler sur cette pair aidance et de pouvoir mettre en relation des personnes qui vivent des quotidiens similaires.
Justement, Arnaud, le trésorier du GMT Gira, lui-même schizophrène, alors je me permets de le dire puisqu'il l'avait confié au micro, nous relate un exemple d'entraide et de partage.
On demande aussi des fois, quand le gémeur en fait a une quelconque compétence, eh ben, s'il veut la mettre au profit des autres gémeurs. Par exemple, on connaissait une amie, enfin une gémeuse qui était prof d'anglais dans sa vie de tous les jours. Et quand elle est arrivée au GEM, elle s'est sentie mieux de mieux en mieux, et puis elle s'est proposée en fait à donner des cours gratuits d'anglais aux gémeurs. Et donc du coup voilà, on sollicite ce genre d'action, parce qu'on trouve que c'est gagnant-gagnant en fait. Autant la personne qui arrive comme ça, elle propose sa propre passion, donc ça lui permet en fait de s'autonomiser davantage et d'aller vers plus de stabilité. Et puis, ça aide aussi les gémeurs, puisqu'en fait, c'est une découverte. Pour certains, ils n'ont jamais fait d'anglais de leur vie, donc du coup, ça leur donne un plus.
Ça leur donne un plus, et surtout, ça continue, ça permet de partager et de s'entraider. N'attendons pas, justement, d'en avoir un besoin impérieux pour retrouver une stabilité, qu'elle soit psychique ou autre. Cultivons l'entraide et le partage, plutôt que la compétition, la concurrence et l'accumulation, aux dépens du reste du vivant. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Pour contacter les intervenants de cette série d'émissions, eh bien, il existe donc le collectif Plénitude, qui cherche à donner un peu plus de voix aux usagers des structures qui accueillent des personnes atteintes de troubles psychiques. Plénitude.sarthe@hotmail.com, pas d'accent bien sûr, plénitude.sarthe@hotmail.com. Et ils ont un local au 134 rue Voltaire. Eh ben, prenez rendez-vous avec eux si vous voulez en savoir plus, et vous pourrez être reçu là-bas. J'aime Tejira, le groupe d'entraide mutuelle Tejira. Son adresse est le 187 rue Nationale. C'est plutôt ouvert l'après-midi, mais vous pouvez les contacter pour en savoir plus au 09 73 62 74 12, 09 73 62 74 12, ou sur gemtegira.asso.st, gemtegira avec un J, ah oui, je ne l'ai pas dit ça, gemtegira.asso.st, gemtegira.asso.st. .st. L'UNAFAM également, alors unafam.org/sarthe, si vous allez sur unafam.org, après il y a les délégations départementales, physiquement c'est 52 rue Chanzy. Vous pouvez également les avoir au téléphone au 02 43 40 44 53, où vous aurez plus d'informations sur les permanences. 52 rue Chanzy, 02 43 40 44 53. Et puis la CGT de l'EPSM, eh ben vous pouvez la contacter à travers son Facebook, CGT EPSM Sarthe. Voilà. Ah, ils sont pas foulés sur ce coup-là. Mais sinon, il y a aussi une adresse internet, c'est cgt.cas. Ah, c'est pas facile. cgt.chs72@gmail.com, cgt.chs72@gmail.com. Sans aucune transition, samedi 23 mars pour les auditeurs du direct à 15h à la Fonderie, rue Saint-Pavin-des-Champs, il y a une rencontre-discussion qui a pour objet d'ouvrir un espace de discussion et d'échange autour d'une psychiatrie en résistance, s'appuyant sur les valeurs humanistes qui avaient accompagné le désaliénisme dans l'après-guerre. Eh oui, une fois que ça s'appelait plus des asiles de fous, mais plutôt autre chose. Eh bien, cette psychiatrie humaniste, si vous voulez en savoir un peu plus sur le sujet, rencontre samedi 23 mars à 15h à la Fonderie avec Mathieu Bellassène, psychiatre, auteur entre autres du livre « Abolir la contention ». C'est d'ailleurs sur la contention que tournera cette discussion. Hervé Guillemin, également professeur d'histoire contemporaine et qui travaille sur la psychiatrie. Et Benjamin Veil, psychiatre, praticien hospitalier à l'ASM 13. Voilà, c'est le samedi 23 mars à 15h à la Fonderie, rue Saint-Pavin-des-Champs. Sinon, il se passe plein d'autres trucs un petit peu partout, et notamment à Le Mans. Vous trouvez des informations sur sarthe.demosphère.net. Et avant de se faire d'être trop en retard, je vous dis tout simplement, allez, au revoir.
Mm-hmm.